J'adore ce bed-là de Marceau le matin. Il est présentement 7h30.
Tabarouette, t'es déjà prêt pour notre party?
Je suis dans le party de Noël, Max Larouche. J'ai assez hâte à cette party-là.
Ben oui.
418-971-1021 pour réagir avec nous. Vous avez été tordant avec les histoires de gâteaux vachants à Pablo Rodriguez. J'en lis un dernier, Jason, qui nous écrit Pablo Reo Rodriguez.
Pablo Reo, OK.
Oreo, oh, ouais. Max, ouais. On va faire de la circulation pour la première fois dans le show.
Yes, c'est vendredi, fait que c'est plus léger qu'à l'habitude. Puis d'ailleurs, hier, ça, j'étais pas là, mais j'imagine que ça a été...
Très ardu
non,
hier
c'est
matin.
C'est ça, hein, c'est ça qui arrive. Là, ce que j'ai à vous signaler, c'est sur Henri IV Sud, une panne à la hauteur de la rue Michelet, la voie de gauche, pardon, qui est bloquée, sinon Capitale-Ouest, petit ralentissement, là, entre Henri Bourassa et Laurentienne. Sur Laurentienne-Sud, vers la capitale, petit ralentissement aussi. Robert Bourassa-Sud, vers le boulevard Le Bourgneuf. Et un petit peu d'attente pour l'accès au pont Pierre-Laporte, direction North.
Merci beaucoup. 418-971-1021 pour réagir avec nous. Je vous invite également à télécharger l'application Boulevard pour nous écouter partout où vous allez, surtout dans le temps des fêtes, là, où vous allez sûrement voyager à travers la province. On s'en va de ce port rejoindre un de nos chroniqueurs qu'on adore en politique américaine. Et je tiens à le remercier personnellement parce qu'il participe à Marceau le matin, il participe à l'émission d'En Jase. Puis si on a des bons résultats, c'est parce qu'on a des collaborateurs de talent comme lui. Luc Laliberté, comment ça va?
Écoute, d'abord, félicitations pour les bons résultats. Puis quand on peut apporter ne serait-ce qu'une petite brique à l'édifice, bien, écoute, je suis bien content de me joindre à vous dans les deux émissions, mais ce matin en particulier.
Ah, merci beaucoup, Luc. C'est très, très, très gentil. Luc, Donald Trump a repris sa rhétorique des pays de cul parlant des immigrants qui sont aux États-Unis. Bon, on sait, il y a un problème d'immigration illégale aux États-Unis. Moi, je pense que ça provient beaucoup plus du sud de la frontière, donc du Mexique et des pays environnants là, de l'Amérique latine. Parce que quand ils s'attaquent à des pays comme la Somalie qui vivent depuis, là, je lisais, là, depuis 1980, des perturbations politiques. Il faut quand même faire la différence entre qui est un réfugié politique et qui est un immigrant clandestin.
Ouais, mais tu vois, dans ce cas-là, dans le cas de la Somalie, il a exploité un véritable scandale qui s'est déroulé au Minnesota. Puis il en profite d'ailleurs pour attaquer l'ancien candidat à la vice-présidence qui est Temoise, qui est toujours le gouverneur du Minnesota. Donc, on a détourné des sommes considérables, des sommes qui avaient été allouées pendant la COVID, pour aller vers des gens, des familles qui étaient à faible revenu, qui étaient en difficulté. Et parmi les gens qui ont détourné ces sommes d'argent, il y avait des gens originaires de la Somalie. Il faut savoir que le Minnesota, c'est un endroit où on retrouve une bonne communauté de Somaliens. Donc, quand je dis une bonne, je parle en nombre. Donc, ils ont une influence là-bas, ils ont un poids politique. Donc, il en a profité par la bande pour attaquer un adversaire démocrate, quelqu'un qui ne s'est jamais gêné pour le critiquer. Et comme gouverneur, Temoise, qu'il n'est pas vu, on dit qu'il n'est pas impliqué dans le scandale, mais que tout ça se soit passé pendant qu'il était en poste, c'est gênant. C'est ouvertement, puis franchement gênant. Mais c'est de là que vient l'attaque contre les réfugiés ou les immigrants originaires de Somalie. En même temps, ceux qui, parmi nos auditeurs, suivent Donald Trump depuis qu'il est arrivé sur la scène politique, tout ce qui est originaire de pays arabes, musulmans ou arabo-musulmans, tout ce qui a, et c'est regrettable de le formuler ainsi, la peau un peu plus foncée, pour Donald Trump, ça ne devrait pas entrer aux États-Unis. Il a toujours été très clair là-dessus. Hein. Il voudrait des immigrants qui viennent de la Norvège, de la Finlande, de la Suède, l'Europe de l'Ouest, ça passe encore, mais c'est clairement un message qui est, à la limite, il pourrait jouer sur des éléments de sécurité, mais c'est pas toujours le cas. On sent carrément qu'il y a une barrière, puis il le dit ouvertement. Ça lui a fait rappeler probablement les incidents de son premier mandat, et là, avec son administration, il a dit, écoute, on bloque finalement l'entrée au pays de plus de migrants ou de réfugiés, de plus de 19 pays. Donc, c'est énorme, mais ça va avec son discours, hein? Ça va avec ce qu'il avait dit, je protégerai la frontière, on va faire des États-Unis un pays plus sécuritaire. Ça avait été un gros argument lors de la campagne électorale, mais là, quand on observe les sondages, les gens se rendent compte qu'il va beaucoup plus loin que ce qu'il avait dit, et avec des moyens qui sont souvent, qui divisent la population, et qui sont souvent à la limite ou qui enfreignent la légalité ou les règles du jeu. Donc, tout ça, à partir de ce que tu viens de me dire, donc la question des Somaliens ou les attaques contre la Somalie.
Mais s'il le fait, même en jouant sa limite, même si ça divise, j'imagine, c'est parce qu'il y a un calcul politique qui fait que c'est payant pour lui de le faire, ou c'est juste qu'il est parti sur ce bulle-là puis qu'il va en raison de ses convictions personnelles et rien d'autre?
Il y a un peu des deux. Les membres de son administration n'ont jamais caché leur jeu sur cette question-là. Donc, il y a, j'ai envie de te dire, un biais idéologique très net. Pendant un bon bout de temps, ça lui a rapporté au plan politique, mais je pense, puis c'est vrai, ce serait vrai dans d'autres domaines, dans d'autres décisions pour l'administration, il a surjoué ses cartes. Sur la question de l'immigration, par exemple, en général, les Américains, maintenant, sondage après sondage, on ne parle pas d'une capture d'écran, là, un sondage, une journée, les Américains déplorent sa façon de gérer l'immigration, même l'immigration illégale. Donc, il a peut-être poussé beaucoup plus loin que ce à quoi s'attendaient les Américains, en négligeant, puis ça, ben, c'est déjà aussi une question dont on pourrait discuter, mais il y a des pour et des contre, il y a un impact économique à refuser l'entrée ou à s'en prendre, à arrêter, souvent, pas toujours avec les bonnes justifications, des immigrants qui étaient utilisés pour la main-d'œuvre. Il y a une partie aux États-Unis de main-d'œuvre, c'est très important, qui est immigrante, et même de ceux qui sont aux États-Unis illégalement. Donc, il y a eu aussi un choc ou un contrepoids, si on veut, à ces décisions. Et c'est un peu tout ça. La rhétorique, tu parlais tout à l'heure, il sait vraiment, il ne se gêne plus sur rien maintenant. L'a-t-il déjà fait? Donc, dans les étiquettes...
Moi, je pense pas qu'il s'est déjà gardé une gêne, mais bon, c'est mon opinion personnelle.
Voilà. Mais je veux dire, il a renchéri. Quand on insulte autant les gens... puis qu'on le fait mur à mur, il faudrait presque y aller au cas par cas dans certains cas, il divise aussi la population. Les États-Unis, on le répétait souvent, les gens disaient « ouais, c'est un peu abstrait ». C'est un pays d'immigrants, les États-Unis. Il y a des villes où il y a plus de gens qui sont originaires, qui sont des immigrants, soit de première ou de deuxième génération. Et ces gens-là se sentent comment aux États-Unis? Regarde juste la ville de New York, quand Mamdani a gagné, il a parlé de l'immigration, puis il a parlé des communautés. Mais New York, il y a 6 enfants sur 10 dans les écoles qui sont des immigrants. Okay. Donc, il y a un discours à tenir au-delà de « est-ce que c'est vrai ou pas? » Au-delà des règles, tu polarises, tu divises ou dans le joual, tu crains déjà quand tu t'exprimes comme ça.
Oui, c'est ça. Il y a un discours d'unité à avoir. Je nous amène au Venezuela, Luc, parce que les États-Unis se sont emparés d'un pétrolier cette semaine au large du Venezuela. Ouais. Un pétrolier qu'on apprend qui avait caché sa position pendant plusieurs jours au mois de novembre. Est-ce que ça fait en sorte que Donald Trump va peut-être être capable de revirer l'opinion publique avec le fait que ce pétrolier-là cachait sa position?
Il y a deux ou trois choses intéressantes. En fait, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Quel pétrolier c'était? Où il se trouvait quand on l'a arrêté? Il naviguait sous quel drapeau? Hein? A-t-il caché sa position ou pas? Parce que le président en a rajouté hier. Il a clairement lancé un message au gouvernement Maduro. On a des sanctions contre 3 neveux de Maduro et il y a 6 autres compagnies de transport contre lesquelles on va sévir également. Donc, est-ce que l'arrestation ou est-ce que le fait d'avoir arraisonné un navire, c'était légal ou pas? Il y a encore des zones d'ombre. En termes de droit international, c'est déjà au-delà de ce qu'on, en guillemets, de ce qu'on autorise ou de ce qui est clean ou propre. Ensuite, il faut savoir comment on joue ça du côté américain. Et du côté américain, on est à la limite de ce que les Américains font habituellement. Ce que ça soulève aussi, c'est où s'en allait ce pétrolier, mais où s'en vont les autres pétroliers qu'on a sanctionnés. Ce sont des navires, souvent, ou des compagnies que les Américains sanctionnaient parce qu'ils font des affaires avec des pays avec lesquels les Américains ont des embargos ou des limitations. Je pense, par exemple, à l'Iran. Dans certains cas, ça peut être la Russie. Éventuellement, ça pourrait être la Chine. Donc, il y a des intérêts très américains derrière ça. Mais ça remet de l'avant tout le principe ou le prétexte qu'invoquait Donald Trump pour s'en prendre au Panama. Et peut-être que tout le monde s'en souvient, c'est la guerre aux trafiquants de drogue. C'est le premier prétexte pour faire tout ce que je viens de dire. On n'a même pas fait le tour au complet.
Ça a été la même chose avec le Canada, 51e État, c'était le fentanyl.
Voilà, et c'est un peu là où je m'en vais. C'est que l'administration Trump a divulgué, il n'y a pas tellement longtemps, sa nouvelle stratégie de défense nationale. Et clairement, ce qui ressort là-dedans, c'est que les Américains veulent contrôler l'hémisphère ouest, en fait, l'Amérique au grand complet. Et s'en prendre au Panama, ben là, on pourrait le faire militairement. Le président a même clairement laissé entendre qu'il pourrait y avoir des militaires sur le terrain. Avec le Canada, on la joue économiquement et ça semble satisfaire le président pour l'instant. Du côté du Panama, on va plus loin. Et qu'est-ce qu'on veut du Panama? Il semble que ce soit un changement de régime. Il y a un lien avec le pétrole, là, on le saisit. Les Américains produisent ce qu'on appelle du pétrole léger, alors que c'est du pétrole lourd qu'on produit au Venezuela. C'est très utile pour les Américains, ce pétrole lourd, même si ce sont les États-Unis de grands producteurs de pétrole. Mais il y a aussi du minerai là-bas. Il y a des terres rares, les fameuses terres rares avec, pour lesquelles Donald Trump négociait avec Volodymyr Zelensky en disant « Vous allez nous rembourser comme ça ». C'est devenu sur la scène internationale une denrée prisée. Donc, il y a tout ça derrière ce que le président américain fait au nom du commerce de la drogue. Mais je pense que personne n'est dupe maintenant. Si on luttait vraiment contre le trafic de la drogue, il y a un tas d'autres pays auxquels on s'en prendrait bien avant le Venezuela, parce que le Venezuela, si on parle de production de drogue, ça s'en va vers l'Europe essentiellement, mais ça s'en vient pas vers les États-Unis. Donc, c'est un prétexte. Mais ça cache bien d'autres choses. Puis quand je dis ça cache, de moins en moins. Plus on avance, plus le président Trump dit, on est au Venezuela pour une foule de raisons. Ah, c'était pas le prétexte original, mais tranquillement, on lève le voile sur ça.
Exactement, on a d'autres visées. Je termine, Luc, avec
Oui.
justement les États-Unis et l'Europe qui se séparent de plus en plus sur la scène
Ouais.
internationale. On le voit avec le conflit en Ukraine. Et justement, parlant de ce conflit en Ukraine-là, est-ce qu'il va demeurer dans les mains de Donald Trump ou l'Europe va commencer à l'amener de son côté de plus en plus et est insatisfait à l'heure actuelle du plan de paix et des négociations là, avec le régime Poutine?
Écoute, je viens de souligner, je viens de souligner, je ne savais pas qu'on s'en allait de ce côté-là.
Ouais.
Donc, j'ai souligné la nouvelle politique, la nouvelle politique de stratégie de défense nationale. Là-dedans, le plus gros punch ou le plus gros morceau, c'est ce dont moi je parle en politique étrangère pour les États-Unis depuis longtemps. C'est en préparation. C'était dans le projet 2025, entre autres, la plateforme conservatrice qui inspire Donald Trump, là. C'est la plateforme qui a circulé pendant l'année électorale. Donc, pour l'Europe, c'est littéralement une claque sur la gueule qu'on vient de recevoir. On se doutait déjà que Donald Trump s'éloignait. On se doutait déjà qu'il aimait de moins en moins l'Europe telle que nous, on la connaît comme alliée. Il est plus proche de l'extrême droite. Il est plus proche des populistes de droite. On savait qu'il aimait jouer dur avec l'OTAN. Mais là, carrément, c'est une claque sur la gueule pour les Européens. S'ils n'avaient pas déjà compris, et je pense qu'ils l'ont compris pour avoir entendu des discours, ne serait-ce qu'en France, des discours de politiciens, les Européens vont devoir augmenter leur niveau de jeu, serrer les coudes. On parle de plus en plus d'investissements militaires pour l'Europe parce que, écoute, il y a même deux politiciens américains qui ont proposé de sortir de l'OTAN. Donc, je ne pense pas que ça va se faire. Mais ça veut
Ouais.
dire qu'on a énormément changé.
Ouais,
Et ce
puis
que Donald Trump
le
fait.
président Macron parle de plus en plus aussi d'augmenter la force nucléaire de la France, là.
Voilà. Donc, tout ça est en lien avec la question que tu me posais aussi sur l'Ukraine. Si je suis Volodymyr Zelensky, ce que j'espère, c'est que les Américains ne vont pas se retrouver, se retirer, pardon, trop vite et que l'effort européen va arriver à temps. Mais j'ai peur que ce soit déjà insuffisant. Et c'est la raison pour laquelle, de son côté, Vladimir Poutine n'a pas l'air de faire de concessions dans les négociations. Pas plus tard que ce matin, je lisais encore que c'est l'Ukraine qui devrait pratiquement tout céder pour qu'on mette fin à ce conflit-là, sans garantie que Vladimir Poutine ne revienne, comme il l'a fait après la Crimée, quelques années plus tard, finir le travail en Ukraine. Donc, il se joue énormément, et je te laisse là-dessus, ce qu'on retrouve maintenant comme attitude de la part des Américains contre l'Europe. C'est dramatique sur la scène internationale. C'est un des plus gros changements depuis la Deuxième Guerre mondiale et c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Donc, si on regarde sur la carte, souvent on regarde Est-Ouest, regardons Nord-Sud. On a un gouvernement qui maintenant se comporte comme un gouvernement autoritaire, qui veut avoir la mainmise sur l'Amérique et qui se détourne des alliés européens. Donc, on a ça au Sud et au Nord, la Russie. Donc, ce ne sont pas des années particulièrement réjouissantes. On ne parle pas de catastrophes à court terme, mais ce sont des tendances inquiétantes, comme Québécois ou Canadiens, pour nous aussi.
Qu'on devra surveiller assurément. Luc Laliberté, merci beaucoup pour cette excellente chronique, encore une fois, dans Marceau le matin. Je te souhaite un excellent week-end et au plaisir de se reparler la semaine prochaine.
Bon party à toute l'équipe ce soir, puis une bonne fin de semaine aux auditeurs. Bye.
Merci beaucoup, Luc. Salut. Luc Laliberté, que vous pouvez entendre sur nos ondes dans Marceau le matin, où l'émission On en jase, de politique américaine avec Luc. Max, très gros breaking news concernant la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. On en sait un peu plus sur l'entente qui a été justement présentée ce matin. Là, on est en train de la présenter en webinaire là, aux médecins.
C'est depuis 7 heures ce matin qu'on présente l'entente aux membres. Et l'information qui commence à fuiter, là, entre autres, là, c'est la presse qui en parlait, TVA aussi. Je suis en train de faire un peu le tri de tout ça, mais en gros, parmi les éléments importants, Québec qui a accepté de reculer sur quelques trucs. Entre autres, on devait couper de 13% la rémunération. Ben là, semble-t-il que non seulement on ne reculera pas, on bonifie de 14,5%, donc pour un total de 434 millions. Et on a un 75 millions forfaitaire en plus de tout ça. On retire également les passés de couleur là, sur la vulnérabilité des patients. Ça avait été pas mal critiqué.
Oui. Entre autres, on avait les enfants qui faisaient pas partie des passés de couleur, là, donc qui sonnaient vert à temps plein. Alors, ça faisait en sorte que les enfants n'étaient pas privilégiés là, dans cette façon de procéder-là.
Là, de ce que je comprends, on retire complètement cette notion-là de passé de couleur sur la vulnérabilité des patients. Fait que ce serait comme ça les gros points. Là. L'enveloppe, non seulement on ne coupe pas, on vient la bonifier, on retire les pastilles de couleur sur la vulnérabilité des patients et également là, les 10% liés à l'atteinte de cibles de performance, on retirerait ça.
On retirerait ça. Donc, en bonifiant de 14,5%, ça vient à peu près ce que les médecins demandaient, c'est-à-dire si on a des objectifs de performance à atteindre, on veut que notre rémunération soit bonifiée de 15% et non pas qu'elle soit diminuée pour ensuite être augmentée. Donc, ça semble être un combat qui a été gagné par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
De même, ça ressemble à ça pas mal.
On a Jacinthe-Ève Arrève qui s'est installée en studio. On va faire une courte pause, Jacinthe-Ève, et par la suite, on va parler de ceci. On va parler de Michael May qui a pris des photos avec Pierre Poilievre au party de Noël. C'était des photos d'au revoir. Pierre Poilievre ne le savait pas. Et on va évidemment revenir sur tout ce qui entoure Pablo Rodriguez. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1 à l'émission Marceau le matin.
Boulevard 102.1.